Que Dieu nous visite avec puissance en ce jour. Que Dieu nous visite avec puissance en ce jour. L'Éternel avait rencontré Abraham, mais avant Abraham, il y avait toute l'histoire de l'humanité avec les générations qui suivaient. Leur vie, Noé, les autres, puis l'Éternel a décidé de reconstruire ce qui a été cassé, je veux dire, sa relation avec Adam. Ça fait longtemps, ça fait bien longtemps. Des millénaires. L'Éternel a rencontré Abraham, il s'appelait Abraham, avec sa femme Saraï, et fit une alliance avec eux, avec Abraham. L'Éternel, dans son alliance, et dans sa marche avec Abraham, avait réservé une période pour former Israël, afin qu'on puisse l'appeler l'Israël de Dieu. Il a rappelé à Isaac et à Jacob qui il était pour Abraham. Et les a associés à la bénédiction et est devenu leur Dieu au point où on l'appelait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Jacob était donc petit-fils d'Abraham, descendant d'Isaac. Ce que Dieu avait dit à Jacob, le concernant leur relation, ne présageait de rien qui puisse être une malédiction. Dans Genèse 28, verset 13, quand Jacob a vu l'échelle, l'Éternel se tenait au-dessus de cette échelle et lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'aie exécuté ce que je te dis. Jacob était donc un homme qui a vu Dieu au-dessus d'une échelle par laquelle montaient et descendaient des anges. Un grand signe, mais aussi a écouté Dieu lui parler, lui dit qui il est, lui Jacob. Et qui, lui, Dieu est, et quelle relation les lie. Jacob était donc heureux. Et il fit même un vœu à Dieu. Mais Jacob n'avait jamais su que de son vivant, alors qu'il lui a été dit, les familles de la terre seront bénies en lui. Jacob n'avait pas une connaissance de ce qu'on appelle la logique de Dieu. Et une famine pour toute la région. Jacob a été obligé de conduire lui-même toute sa famille jusqu'en Égypte, puisque Dieu a dit à Abraham que ses enfants, non seulement seront nombreux, mais passeront 400 ans dans un pays étranger. L'Égypte était bénie en Jacob, mais Jacob, je pense, n'avait pas une idée claire de la chose. Parce que c'est Joseph qui a sauvé l'Égypte. Pendant 400 ans, 430 années, le peuple d'Israël s'est multiplié. C'est beaucoup multiplié. Mais le peuple d'Israël a gardé les pratiques de l'alliance avec Abraham, la circoncision. Mais ce que Dieu avait dit est arrivé 400 ans. Au cours des 400 des 4 siècles et plus, il n'a pas été dit exactement comment Dieu continuait d'avoir des relations avec Israël. Mais par un événement qui devrait être plutôt heureux parce que Moïse avait vécu dans la maison de Pharaon, est devenu Pharaon, mais Israélite, et voulait sauver Israël. Moïse, en voulant essayer, a fui plutôt en abandonnant le trône et en abandonnant Israël. Il avait 40 ans. L'affaire était tellement grave que Moïse a passé sa jeunesse, sa vie adulte et a commencé à passer, disons, sa vieillesse avec Jéthro, son beau-père. Puis Jéthro lui a confié des animaux à conduire. Un jour, il rencontrera un phénomène avec un feu qui ne brûlait pas les herbes et une voix qui sortait du feu qui lui a demandé d'ôter ses chaussures parce que la terre sur laquelle il se trouvait était une terre sainte. Comment peut-on trouver une terre sainte? Loin d'Israël, là où les Madianites vivaient, et qui n'étaient pas descendants du fils de la promesse, comment pourra-t-on trouver une terre sainte en ce lieu? Mais Moïse, dans cette discussion, sut qu'il a rencontré le Dieu d'Israël. Et Moïse est allé chercher le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, comme beaucoup de peuples chrétiens aujourd'hui, vivait conformément à ce qu'il pensait. Il suivait la logique humaine au point de se faire complètement détruire par Dieu. Au moins, ceux qui ont vu la main de l'Éternel une fois, en ayant plus de 20 ans, tous furent détruits. Et après cela, Dieu a permis, Dieu a parlé avec Moïse, qui a donné des lois, des consignes, des commandements à Israël pour leur dire comment ils doivent vivre leur vie. Il est même dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul vrai Dieu. Mais malheureusement, Israël n'a pas vécu en étant soumis à Dieu. La parole de Dieu ne disait pas grand-chose à Israël. Israël voyait le peuple se détruire, mais leur cœur s'endurcissait jusqu'à ce que tout le peuple qui avait au-dessus de 20 ans avant de passer la mer Rouge soit complètement détruit. Parfois, quand j'observe les chrétiens que nous sommes, je me demande qu'en reportant, en nous disant demain, c'est après-demain, c'est après-demain, est-ce que ce n'est pas la même vie d'Israël en étant, en ayant un cœur endurci? Il ne restait plus que Josué et Caleb pour passer le Jourdain avec le peuple. Le Jourdain a été passé avec l'arche de Dieu, mais l'Éternel, je rappelle que l'Éternel était pendant les 40 ans avec Israël, avec une présence que tout le monde pouvait remarquer. Mais les hommes d'Israël croyaient que c'était un droit et vivaient comme ils veulent et avec un cœur qui est leur cœur, chacun vivait comme il veut. Malgré tous les commandements, toutes les paroles que Dieu leur adressait, il n'y avait pas eu de changement. Et avant d'entrer dans la terre promise, il n'y avait plus de nuée, il n'y avait plus de lumière pour marquer la présence de Dieu. Dieu a confié à Josué le peuple d'Israël. Mais ce qui m'a surpris et ce que les chrétiens ne voient pas, c'est qu'il y a un moment où Dieu est pour parler, il y a un moment où Dieu est pour se taire. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que de Genèse jusqu'à Deutéronome, Dieu parle à son peuple. Mais quand Dieu a confié le peuple d'Israël à Josué, ça n'a pas été la même logique de conduite. C'est à Josué que Dieu parle. Il n'y a plus beaucoup de conseils, de commandements. Non. Le temps de la parole corrective est passé. Le temps de l'engagement avec Dieu est passé. Si tu veux t'engager avec Dieu, tu le fais. Si tu ne veux pas t'engager avec Dieu, tu le fais. Mais chaque position avec ses conséquences, tu ne peux pas dire que Dieu n'est pas bon. Dieu ne revient pas, n'est plus revenu pour leur demander quoi que ce soit. Mais c'est à Josué. Celui-là qui a eu plus de 20 ans, qui a gardé la foi, qui a gardé la parole de Dieu, c'est à lui que je parle. C'est quelque chose qui doit nous réveiller. Parce qu'il peut arriver que Dieu ne parle plus, comme ça a été juste avant Jésus-Christ, pendant des siècles. Et les hommes, bien sûr qu'ils continuaient d'adorer Dieu, mais chacun s'est devenu plutôt une affaire philosophique. Et même ceux qui pensaient à la résurrection des hommes, comme les pharisiens, lorsque la question de la résurrection a été posée à Jésus-Christ, ils n'ont pas eu cette intelligence de savoir que leur choix était en Jésus-Christ. Je disais donc que Josué avait commencé par conduire le peuple d'Israël, mais ce peuple lui a été confié par Dieu. Et Josué n'était pas, Dieu n'avait pas cette relation qu'il avait avec Moïse, cette même relation avec Josué, c'est-à-dire que Dieu n'était pas apparu, il n'existait plus comme nuée, il n'existait plus comme lumière, la nuit. Et il n'y avait plus de manne. Dieu a fait cesser la manne. Il a retenu la manne et la manne ne tombait plus. Vous savez, mes frères et sœurs, je disais que Dieu vienne à nous avec puissance en ce jour. Je ne sais pas si c'est moi qui réfléchis tout. Si je ne sais pas si c'est moi qui veux nécessairement faire la volonté de Dieu. Mais j'ai l'impression que à chaque fois que tu commences à parler avec quelqu'un, c'est ce qu'il pense qui est ce qu'il croit, c'est la vérité, c'est autour de ça qu'il réagit au point même de t'agresser s'il le faut. Josué était arrivé à Canaan avec le peuple. Et le peuple devait s'installer. Mais le peuple devait conquérir maintenant, avec Dieu devant, la terre de Canaan. À part l'arche, il n'y avait plus cette nuée et cette lumière. Dieu était-il parti? La nuée et la lumière étaient-elles des phénomènes du désert ou c'était vraiment Dieu? Tous ceux qui sont arrivés à Cana ont vu la nuée et la lumière du désert, la manne du désert. Sachez donc, mes frères, il peut arriver que Dieu ne s'exprime plus de la même manière et que Dieu change dans notre vie en s'exprimant d'une autre manière. Lorsque Dieu a trouvé que le temps est arrivé pour conquérir Canaan, il a demandé que tous ceux qui sont des mâles soient circoncis, qu'on rétablisse la. Dieu a demandé qu'on rétablisse l'alliance avec Abraham. Alors, tous ceux qui sont nés dans le désert, tous ceux qui n'avaient pas été circoncis en Égypte, qui n'avaient pas 20 ans, mais qui ont pu arriver à Canaan, ont été circoncis. Mes amis, la parole de Dieu disparaît telle au cours du temps. L'alliance de Dieu disparaît telle au cours du temps. La demande de Dieu disparaît telle au cours du temps. Quand Dieu demande quelque chose et que vous ne lui, ça ne lui est pas donné, ne croyez pas que Dieu est dans ce que vous faites. C'est après avoir circoncis ce peuple arrivé à Cana, Josué 5, verset 9, que Dieu a dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal, Gilgal jusqu'à ce jour. Josué 5, verset 9. Ce qui veut dire qu'un peuple peut vivre avec de l'opprobre pendant des siècles, pendant des dizaines d'années. Malgré tout le temps que Dieu apparaissait dans la nuée, dans la lumière, avec l'arche, Israël avait une sorte de vie que Dieu appelait l'opprobre de l'Égypte. Dieu les a sortis de l'esclavage après qu'ils aient rétabli en bonne et due forme avec ceux qui ont écouté la voix de Dieu. C'est avec eux que Dieu a roulé l'opprobre de l'Égypte. C'est avec ceux qui n'étaient pas condamnés parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu que Dieu a roulé l'opprobre de l'Égypte. Lorsque nous vivons, parfois nous vivons avec des, parfois nous vivons avec de l'opprobre, sans le savoir, une sorte de malédiction. Et seul Dieu sait comment enlever cette malédiction de notre vie. Et nous dit comment il faut faire. Que pensez-vous d'un peuple de tout, des milliers de personnes, de milliers de personnes arrivées à Canaan qui devaient être circoncis et avoir de la douleur? À un âge donné, quand l'enfant n'est pas encore, a encore quelques semaines ou mois, il ne se souviendra pas de cette douleur. Et c'est pourquoi la circoncision se fait très tôt, de plus en plus. Mais lorsque l'enfant doit être grand, parfois même ceux qui ont fait 40 ans, qui avaient moins de 20 ans et qui ont fait 40 ans, approchaient 60 ans. En grande partie, ceux qui ont passé la mer Rouge à moins de 20 ans, plus 40 ans, le minimum, c'est qu'ils approchaient 60 ans quand la circoncision a été faite. Donc, il y avait des gens qui avaient plus de 40 ans, 50 ans, plus de 50 ans, qui avaient été circoncis. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cette douleur vive avec une circoncision faite avec une pierre taillé. Imaginez que je vous dise que Dieu m'a dit qu'il faut faire quelque chose qui peut apporter de la douleur. Seriez-vous d'accord? Ou bien seriez-vous en train de me dire que Dieu n'est pas comme ça? Nous avons changé, nous pensons. Nous avons formé notre Dieu à notre manière pour que ça ne choque pas notre conscience. Et nous avons formé Dieu pour être à l'aise. Notre Dieu qui est dans notre tête est un Dieu qui n'est pas celui dont nous parlons, celui qui est ici dans la Bible. C'est un Dieu que nous-mêmes, un Dieu imaginaire que nous avons. De sorte qu'à chaque fois, nous le prenons pour une moto ou une voiture que nous conduisons vers le lieu où notre cœur peut être à l'aise. Nous orientons Dieu et sa parole vers ce que nous aimons et non vers ce que Dieu nous a dit et non vers ce que Dieu nous a fait dire. Mes amis, efforçons-nous de rentrer par la porte étroite. Efforçons-nous de rentrer par la porte étroite pour que nous ne soyons pas comme ceux-là qui ont plus de l'âge, mais qui devraient rentrer à Cana avec Josué, mais qui n'ont pas pu tout simplement parce que ils ont conduit leur vie avec leur cœur en ayant un Dieu imaginaire, en faisant croire que Dieu se conforme à leur volonté. Parfois, il parle à Dieu ou à l'homme de Dieu, Moïse, Aaron, comme si ils étaient encore des hommes comme eux. Et beaucoup ont péri pour l'avoir fait, y compris la sœur, même père, même mère de Moïse et d'Aaron. Elle n'a pas parlé à haute voix, elle a murmuré. Mais que ce soit une parole dans notre tête, dans notre cœur, que ce soit des murmures ou des paroles à haute voix, des actes que nous avons posés, Dieu le sait. Que personne donc ne dise demain qu'il n'est pas arrivé à Cana. Que Dieu nous visite avec puissance en ce jour. Mais pour nous visiter avec puissance, Dieu nous impose une marche aussi qui peut ne pas nous plaire, qui peut nous paraître bizarre. Comment un Dieu peut imposer une souffrance avant d'ôter dessus nous l'opprobre, la malédiction que nous avons eue. Et c'est pourquoi plusieurs croyant que Dieu changera d'attitude n'ont pas changé dans le désert et ils sont tous morts. Il dit que Dieu nous visite avec puissance ce jour. S'il vous plaît, lorsque l'Éternel a roulé de dessus Israël l'opprobre de l'Égypte, alors l'Éternel a commencé quelque chose d'autre. Le peuple d'Israël était proche de Jéricho. Suivez bien ceci. Dieu a arrêté sa présence sauf l'arche. Les signes que tout le monde peut voir et qui n'ont rien fait dans le cœur d'Israël, quand chacun pouvait voir le soleil, ça n'a rien dit aux gens. Quand quelqu'un pourrait voir la lune, ça n'a rien dit aux gens. Dieu a enlevé ces signes, la nuée la lumière. Et donc, l'arche n'est pas visible. L'arche est dans un tabernacle quelque part. Et tu peux vivre en Israël même sans savoir s'il y avait quelque chose qui est dans un tabernacle si tu n'écoutes pas. Alors Dieu a envoyé quelqu'un à Josué. Il n'a pas abandonné le peuple. Mais c'est à Josué qu'il a parlé. Josué marchait quand il a vu quelqu'un. Et Josué 5, verset 13 à 15. Josué 5, verset 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Voici la parole qui marquait la nouvelle présence de Dieu. La nouvelle action que Dieu va imposer à Israël. La guerre. Mais une guerre dans laquelle Dieu est avec le chef de son armée. Une visite puissante. Comme Élisée disait à Géasi, tu avais peur de voir toute la grande armée de la Syrie. Josué et Élisée a demandé que Dieu ouvre les yeux de Géasi pour que Géasi voie. Géasi a vu tout autour d'Israël, sur les collines et partout, une grande armée avec des cavaliers et des chars. Et c'est ainsi que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. La puissance de Dieu se manifeste lorsque nous avons suivi la voix de Dieu et une voix souvent douloureuse parce que ça ne correspond pas à ce que nous voulons. C'est après la circoncision. Ça doit être très douloureux. Mais après ceci, Dieu n'a plus jugé bon de se montrer à tout Israël comme dans la nuée et dans la lumière. Il a jugé mieux de se montrer seulement à Josué. Pour que Josué puisse avoir ce courage que Dieu lui a demandé dans Josué 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner, ce qui, après des centaines d'années, mes amis, nous sommes tous la résultante d'une vie qui s'est passée des millénaires avant nous. Nous sommes la résultante d'une vie qui s'est passée des millénaires avant nous. Une promesse faite à Abraham, mais c'est après des siècles que Josué a eu cette responsabilité et ce privilège. Après avoir écouté Dieu, après avoir fait comme Dieu lui a dit, c'est après cela que Dieu lui confia le peuple d'Israël. Et il avait hérité de l'arche de Dieu. Mais Dieu, pour lui montrer, comme il lui a dit dans Josué 1, qu'il est avec lui, s'il l'écoute, Dieu lui a envoyé le chef de l'armée de Dieu. Ce n'est pas un guerrier de Dieu. C'est celui qui commande l'armée de Dieu qui est arrivé avec son épée. Avec son épée qui était nue, qui n'était pas dans un carquois. Prêt à combattre. Le langage que Josué pouvait comprendre avec le chef de l'armée, c'est l'arme. Mais Dieu ne combat pas toujours avec une épée. C'est ainsi que, comme Moïse, Dieu a visité Josué aussi avec puissance et lui a dit: enlève tes souliers, car le lieu auquel tu te tiens est un lieu sept. Josué 5, verset 15. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Que Dieu nous visite avec puissance pour que nous puissions voir que Dieu existe vraiment. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il réfléchit toujours, réfléchit toujours en passant. Chaque fois qu'il est dans des problèmes, il pense à moi. Et il s'accroche à une parole que je lui dis toujours à la fin de chaque conversation. Je lui dis, c'est quoi? Il me dit, à la fin de chaque conversation, je lui dis, que Dieu soit avec nous. Et que parfois, dans une conversation, dans des échanges, je dis ça plusieurs fois. Alors que lui pouvait penser que moi, j'étais dans une position dans laquelle c'est pas, je devais dire que Dieu soit avec moi, je lui dis toujours que Dieu soit avec nous. Et il a constaté que depuis qu'il commençait des échanges avec moi, sa vie est en train de changer. Sa vie est en train de changer parce qu'il voit que Dieu pose devant lui des difficultés, des épreuves. Et quand il accepte d'affronter l'épreuve, il se souvient de moi, que Dieu soit avec nous. Il se dit, Dieu est avec moi. Et il voit que la solution arrive. Et il me dit qu'il est en train de grandir. Il voit qu'il est en train de grandir dans la parole parce que les épreuves qui viennent ne sont pas toujours surmontables. Mais lorsqu'il se souvient de ce que je lui dis, ça lui permet d'aller de l'avant. Et il ne sait pas jusqu'à présent comment il fait pour s'en sortir. Mais il voit qu'il s'en est sorti à la fin. Mais nous voulons un pamphlet ou bien un plan d'action vérifiable pour avancer avec Dieu. Nous ne savons pas que pour passer le Jourdain, il faut un premier pas dans le fleuve qui rugissait. Nous ne savons pas que pour passer la mer Rouge, il faut un premier pas dans cette mer profonde qui roulait avec force. Que Dieu nous visite avec puissance. Josué l'a expérimenté après cette visite, l'a expérimenté à Jéricho. Ces gens avaient eu le courage de sortir pour aller chercher les envoyés de Josué à Jéricho, sont restés tous peureux, voyant Dieu, voyant le peuple de Dieu encercler leur ville. Ils n'ont pas eu le courage de sortir. Dieu n'a pas pris de bulldozer pour faire tomber les murs de Jéricho. Il n'y en avait même pas. Ce sont les murs qui sont tombés par eux-mêmes. Jéricho n'a pas été envahi par une porte. C'est par toutes ces limites cette ville a été envahie. Il n'y avait pas quelque part où passer pour s'enfuir. Le peuple d'Israël est tombé sur Jéricho sans lui donner la chance de fuir. C'est ça la présence de Dieu. Quand la guerre devient la guerre de Dieu, ce n'est pas toi qui agis, tu laisses Dieu faire. Laissons Dieu faire pour que nous puissions être heureux demain. Laissons Dieu faire pour que nous puissions être heureux demain. Il y a eu des consignes sur Jéricho, mais il y a eu un homme d'Israël qui a pensé qu'il était le plus intelligent, qui a enfin au commandement de Dieu. Vous connaissez tout son sort avec sa famille. Aujourd'hui, vous voyez des choses qui se passent. Et vous et moi, nous crions, nous pleurons. Parfois même, nous osons dire que Dieu n'a pas bien fait. Que puis-je devant Dieu quand Dieu a déjà parlé? Que puis-je? Parfois, le temps est passé. Le temps de la rédemption est passé. Je vous rappelle certaines choses dans ma famille pour que vous puissiez voir que la vie que nous menons n'est qu'une résultante des vies passées depuis des siècles, des millénaires. Et s'il n'y a rien pour arrêter la malédiction, la chair risque de souffrir plus encore. Parce qu'il est écrit dans Corinthiens, c'est une chose cachée que les chrétiens ne savent pas, c'est que Dieu peut détruire la chair, même si vous vous appelez chrétien. Il peut détruire la chair. J'espère que nous avons bien compris et que nous ne serons pas endurcis jusqu'à ce que nous perdions tout pour croire que nous sommes vivants. En science, il y a une expérience sur la grenouille et c'est ce qui arrive aux chrétiens. On met la grenouille dans l'eau froide. La grenouille est à l'aise. Et puis on augmente petit à petit la température. Jusqu'à ce que la température puisse arriver à un niveau où la température tue la grenouille dans l'eau. C'est justement la vie des chrétiens. Ce n'est pas que la température. Si on mettait la moitié de cette température, qu'on jetait la grenouille dans la grenouille, s'enfuirait. Parce que la grenouille remarquerait que l'eau est chaude. Mais justement, ceux qui sont dans les maisons de pasteurs ou de familles de pasteurs ou dans des cercles de prière, ils font leur propre volonté alors que la température monte. Et puis, s'ils n'auront plus le sens de savoir, ils ne pourront plus savoir, c'est comme ça la vie d'un homme aussi. Ça, tes problèmes, il arrive un moment où même tu ne peux plus réfléchir, penser aux problèmes. Alors que tu es déjà dans le feu, tu ne le sais pas. Pensant que nous sommes dans une zone de confort, ce n'est pas que la grenouille, ça dit, ça monte un peu, un peu, un peu, un peu. Et la grenouille se sent à l'aise dans cette eau-là. Le problème, un peu, un peu, nous nous sentons à l'aise. Finalement, c'est ça qui détruit. Au lieu de, lorsque Dieu voit qu'il y aura, il y aura une première étape où la température va monter, que Dieu nous avertit, nous sommes contre et nous restons dans notre eau. Nous nous disons que lorsqu'il y aura la chaleur, nous le saurons. Nous réfléchissons, nous boudons, nous murmurons, nous faisons des choses pour montrer que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'on nous dit. Et la température continue de monter petit à petit, jusqu'à ce que finalement notre vie soit détruite. Si au moins tu peux mourir et que c'est fini, c'est bon. Si tu t'en sors avec des cicatrices visibles par tout le monde et que tu ne peux plus vivre et tu es dans le, comment on peut le dire, tu es dans la douleur, c'est encore plus grave. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Dieu a attendu des centaines d'années avant de rouler de dessus Israël, le peuple de l'Égypte. Dieu a préparé Moïse pour sortir Israël. Que Moïse fuit, ait peur, se retrouve quelque part où il ne veut pas. Dieu le ramènera. De la même manière que Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers sur la terre sur laquelle tu te tiens et signe. Sur une terre sur laquelle vivaient ceux qui font le mal. De la même manière, à Canaan étaient des peuples qui font le mal, c'est pourquoi Dieu voulait les détruire. Mais quand Dieu a envoyé son chef des armées, cette terre, parce que Dieu est dedans. Quand Dieu envoie son messager, ce que toi tu peux considérer comme étant une malédiction peut deviendra une bénédiction. Que Dieu nous visite avec puissance en ce jour. Amen.